France Musique.
Merci Dominique Boutel et à très bientôt sur l'antenne de France Musique.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
You're not Rosebud, are you?
What?
Rosebud. And your name is Jennings.
Yes, sir.
Goodbye, everybody.
Isn't that because her family changed their name from Albrecht? Or do you think it's because all the you girls are bitches?
I guess so.
Yeah, I think Paige is the same.
Monsieur, pardon. Vous n'avez rien contre la jeunesse.
Si, moi j'aime bien les vieux.
Itana.
はい。Did you find what you were looking for?
No, with two shots in his back and one in his stomach. Nobody important, really.
Cinéma Song par Thierry Jousse.
Aujourd'hui, Bertrand Blier en tenue de soirée, deuxième partie. Bonsoir. D'abord, 1er janvier oblige, je souhaite à tous les auditeurs de Cinéma Song et même aux autres une excellente année cinématographique et musicale. Ensuite, pour fêter ça, nous retrouvons comme promis Bertrand Blier pour la deuxième partie de l'entretien qu'il m'a accordé. Ce soir, il sera beaucoup question de Mozart, de Schubert et de Beethoven, mais également de Martial Solal ou de Raled, sans oublier l'opéra italien ou la musicalité naturelle de Gérard Depardieu. L'occasion de vérifier, s'il en était besoin, que le réalisateur de Trop belle pour toi, Préparez vos mouchoirs, Notre histoire ou Combien tu m'aimes, est bien un authentique fou de musique, au cinéma comme dans la vie. Mais en attendant, Bertrand Blier, mon actualité, c'est d'abord ceci.
Вверх закреплена на дереве.
Давай аккуратненько. Все. Теперь вставай, стой там. Сейчас папа спустится.
Une belle chanson russe pour démarrer cette nouvelle année 2015, donc je vous souhaite une bonne année à vous tous, chers auditeurs. Et une chanson russe qui est issue également d'un film russe qui est sorti hier, 31 décembre 2014, nous sommes le 1er janvier 2015, Territoire de la liberté d'Alexander Kuznetsov, un documentaire qui fait un peu plus d'une heure et qui est un film assez étonnant, donc j'ai voulu en parler. Il n'y a pas de musique originale dans ce film, mais il y a beaucoup de musique, puisqu'il y a des moments chantés, des moments où les personnages jouent de la musique ensemble. C'est un film donc qui est l'exploration d'un territoire qui se situe dans la Sibérie centrale, pas très loin de Krasnoïarsk, une ville où il ne fait pas extrêmement chaud, bien sûr. Et dans ce territoire qui s'appelle les Solbis, un territoire très montagneux, il y a une communauté de gens qui habitent là, qui vivent là et qui vivent dans une sorte d'utopie par rapport au pouvoir russe, par rapport à la Russie de Poutine. Et c'est un film qui est à la fois une sorte d'exploration à la fois philosophique de ce qu'est la liberté, de comment est-ce qu'on peut être libre dans ce pays et même d'une certaine manière sur la Terre, et en même temps un film évidemment politique, puisqu'il est beaucoup question voilà, de cette relation complexe avec le pouvoir, qui est d'ailleurs discrédité et considéré comme corrompu par la plupart des personnages qu'on entend dans le film. Et puis c'était également donc évidemment une exploration cinématographique et musicale à travers un montage tout à fait réussi, et puis voilà cette musicalité des personnages qu'on voit dans ce film qui est tout à fait extraordinaire. C'est vraiment la vie qui s'exprime à travers la musique, à travers ces conversations nombreuses et variées dont on est le témoin. C'est un film très beau, très libre, qui mérite vraiment d'être découvert. Donc pour ce début d'année où vous aurez, chers auditeurs, besoin de vous remettre un peu des agapes, j'imagine, d'hier et des jours précédents, vous pouvez attaquer avec ce film Territoire de la Liberté. Il faut aller le voir assez vite parce que comme c'est un film, on va dire, modeste dans sa production, il faut aller le voir pour le soutenir et pour justement qu'il reste à l'affiche et que d'autres spectateurs aient l'occasion de le voir. Alors pour poursuivre ce début d'année 2015 et récupérer un peu justement des fatigues, on va se plonger dans un coffret dont j'avais pas eu l'occasion de parler, qui est sorti à l'automne dernier, il n'y a pas tellement longtemps, je crois que c'était courant octobre, et c'est un coffret qui réunit 7 bandes originales signées par le guitariste et compositeur Ry Cooder. Alors Ry Cooder, on le connaît bien pour ses activités dans le rock, il a signé beaucoup d'albums, d'ailleurs l'intégrale de ses albums avait été publiée l'an dernier, et il a été le sideman de beaucoup de rockstar également. Il a apporté son son très particulier à beaucoup de gens et il a signé également un certain nombre de bandes originales pendant sa carrière. Alors il était déjà présent sur la bande originale de Performance, le film de Nicolas Roeg et Donald Camel, aux côtés bien sûr de Jack Nitzsche qui était l'auteur de la bande originale, mais on le retrouve beaucoup plus tard à partir de la fin des années 70 dans pas mal de films. Alors l'intégralité de ce soundtracks de Ry Cooder ne sont pas dans ce coffret, on en trouve quand même 7, parmi lesquels je vais m'attacher plus particulièrement à 3 d'entre eux, et en particulier pour démarrer, The Long Riders, qui est un western donc de Walter Hill qui sera un peu le cinéaste de prédilection de Ry Cooder, et là on va retrouver le Ry Cooder country et western bien évidemment pour ce film dont on va écouter un extrait musical.
Thank you.
guitariste Ray Cooder, entouré de quelques complices pour la bande originale du film The Long Riders 1976, un des premiers films de Walter Hill. Walter Hill avec lequel Ray Cooder aura collaboré à de nombreuses reprises, en particulier dans les années 80 voire 90. Dans ce coffret dont on parle pour le début de cette émission Cinéma Song, on retrouve plusieurs bandes originales de films de Walter Hill, des films moins connus comme Crossroads, Trespass ou même Johnny Handsome, Johnny Belgueule avec Mickey Rourke, qui est un film du début des années 90. Et c'est une part importante de la carrière de Ray Cooder au cinéma. Ray Cooder, on l'a dit, il a une grosse carrière d'auteur, compositeur, et souvent aussi de quelqu'un qui va à la recherche des racines de la musique américaine. C'est ce qu'on retrouve justement un peu dans cette bande originale de The Long Riders. Et c'est d'ailleurs quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux racines musicales en général, puisqu'on l'a vu également aux côtés de Ali Farka Touré, par exemple, ou le Malien, ou Compay Segundo, puisqu'il a été l'artisan aussi du film de Wim Wenders, Buena Vista Social Club, et de la redécouverte de tous ces musiciens cubains qu'on ne connaissait pas tellement, on va dire, aux États-Unis ou en Europe. Alors, Wenders, puisque j'en parle justement, c'est un autre complice pour Ray Cooder dans ce coffret, donc qui, je le rappelle, réunit 7 bandes originales. Alors, c'est encore une fois pas l'intégralité du travail de Ray Cooder pour le cinéma, mais enfin, c'en est quand même une partie non négligeable, et des bandes originales qui sont toutes intéressantes à des degrés divers. Alors, la plus connue, c'est justement liée à Wim Wenders, Paris, Texas, bien sûr, en 1984. On se souvient bien évidemment du film qui a obtenu la Palme d'Or à l'époque, qui est ressorti il n'y a pas tellement longtemps dans les salles, et avec Nastassia Kinski et Harry Dean Stanton. Alors ça a été l'objet d'une bande originale évidemment assez planante, comme Ray Cooder aime les concocter. Ça sera d'ailleurs pour vous, chers auditeurs, une façon un peu de décompresser après cette période assez riche de fin d'année. Et du coup, j'ai choisi alors de vous faire écouter un extrait de Paris, Texas, de la bande originale de Paris, Texas. Pas forcément le thème le plus célèbre, mais un autre passage de la bande originale. Et puis une autre bande originale que Ray Cooder a composé sensiblement à la même époque. L'année suivante, c'est un film de Louis Malle. Alors Louis Malle, on le sait, il est français, mais il a fait quand même une carrière aux États-Unis relativement importante à cette époque-là, notamment à la fin des années 70, début des années 80. Et c'est un film qui s'appelle Alamo Bay, autour de pêcheurs. C'est un film de fiction assez documentaire autour de la lutte d'une communauté de pêcheurs. Et il y a une très belle bande originale également de Ray Cooder, très proche, je dirais, de l'esprit quand même planant, un peu ambiante, de Paris, Texas. Enfin, c'est tout le style de Ray Cooder qui est là, en tout cas. Thank you. deux extraits de musique de film de Ry Cooder. D'abord, un extrait de la musique de Paris, Texas, la légendaire musique de Paris, Texas, signée donc Ry Cooder, film mythique et musique mythique également, très très belle, qui reste d'une certaine façon très liée à ce film, mais en même temps qui a une dimension intemporelle qui fait qu'on peut la réécouter un peu à n'importe quel moment de la vie ou de l'année. Et puis, à l'instant, une musique moins connue, mais néanmoins très très belle également, celle de Alamo Bay, le film de Louis Malle en 1985. C'était le thème from Alamo Bay, où il y a une dimension d'ailleurs un peu asiatique dans, dans cette musique, dans ce thème, puisqu'on y retrouve notamment un shakuhachi et un biwa et un koto dans l'instrumentation. Également, il faut signaler la présence de Van Dyke Parks au piano, personnage important dans l'histoire de la pop américaine, puisqu'il était lié à Brian Wilson, mais également il a fait une carrière solo tout à fait intéressante. Et puis bon, bien sûr, Ry Cooder à la guitare et quelques autres complices, tout ça figure donc dans un coffret dont je rappelle le titre très simple, Ry Cooder Soundtracks, donc chez Warner, Rhino Warner. C'est un coffret qui est apparu il y a quelques temps, il y a quelques semaines, mais qui est toujours disponible et qui ne vaut pas très cher, je parle en termes d'argent, mais qui vaut cher par contre en termes de qualité. On ne trouve pas beaucoup de musique de film finalement de ce type en dehors de celle de Ry Cooder, et ça vaut vraiment le coup de les explorer. J'espère que ces quelques extraits vous auront donné envie de vous plonger totalement dans ce coffret de 7 CD.
Putain, le mec à la clarinette, c'est pas un manchot.
Cherche pas, c'est le meilleur. Jarvis de Brumaire. Ça te plaît, hein?
Oui, j'aime bien.
Écoute la reprise de la clarinette, là. Écoute.
Bon, mais t'as vu
comment il tripote son instrument, le père Jarvis, hein?
Alors là, chapeau. C'est vraiment la musique d'un type qui a jamais été heureux en amour, ça c'est sûr.
Tu parles. Le pauvre mec, il est mort à 35 ans. 35 ans, mais tu te rends compte de la perte? Quelle époque de con, on claquait pour un rien.
Forcément. Ils passaient leur temps à te saigner, c'est tout ce qu'ils savaient faire. Un rhume, allez hop, ils te pompaient 2 litres.
Remarque, aujourd'hui c'est des accidents de la route, alors ça vaut guère mieux.
Mais parce que les gens conduisent comme des cons.
C'était quoi sa maladie à Mozart?
Je sais pas exactement. Probablement qu'avec un bon antibiotique, il aurait écrit 40 symphonies de plus. Et Beethoven, il aurait pu s'aligner.
Voilà un type, Mozart. J'aurais bien aimé le connaître.
Putain, et moi? Quand je pense à toutes les fois où il m'a sauvé de la déprime, c'est pas compliqué. Avant de t'en rencontrer, c'était mon seul pote.
L'inviter à becter, tiens. Ça aurait été chouette. L'emmener à la campagne. Il devait aimer ça, la campagne.
Mais bien sûr, il aimait tout. Il n'était pas chiant.
On lui aurait filé la môme. J'aurais dit, tiens, Wolfgang, elle est à toi. Solange, elle s'appelle. Cadeau d'admirateur.
Il en aurait fait une sonate. Ah.
Bertrand Blier, Mozart, Gérard Depardieu, Patrick Devers, Carole Laure, tous réunis dans Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier, dont on écoutait un extrait assez fameux pour ce film qui obtint l'Oscar du meilleur film étranger en 1978, un des films marquants de Bertrand Blier, un film marquant où il est beaucoup question de musique et où il est beaucoup question de Mozart. On l'a entendu avec la verve très particulière de Bertrand Blier, mais enfin en même temps c'est une façon de parler de la musique qui est tout à fait, je trouve, intéressante et même passionnante, surtout quand c'est Gérard Depardieu et Patrick Devers qui en sont les acteurs. Alors Mozart, on va en reparler, et surtout Bertrand Blier va en reparler, puisque nous serons en sa compagnie jusqu'à la fin de cette émission, jusqu'à minuit, pour donc la deuxième partie de ces émissions spéciales avec Bertrand Blier en tenue de soirée. Et ce soir, il sera beaucoup plus question de musique classique que l'année dernière et que la semaine dernière en même temps, puisque la semaine dernière, si vous vous en souvenez, si vous étiez à l'écoute, Bertrand Blier a beaucoup parlé de jazz notamment. Ce soir donc, on va retrouver Mozart, on va retrouver Schubert, on va retrouver Brahms et quelques et Beethoven même plus tard dans l'émission. Donc on va tout de suite retrouver Bertrand Blier donc pour la suite de cet entretien, deuxième épisode donc de l'entretien qu'il m'a accordé pour Cinéma Song et je l'en remercie.
France Musique.
Cinéma, c'est populaire et il faut qu'il y ait du confort. Il faut qu'il y ait, d'une certaine manière, un peu de confort. Alors, si les images sont très violentes, très abruptes, il faut un peu de confort à côté. C'est l'oreille, c'est la musique. C'est... Parce que si on additionne tout, c'est... on peut fermer les salles.
Alors, dans Préparez vos mouchoirs, là, la musique joue un rôle important. Et c'est aussi une matière...
Oui, c'est Delruy, longue... encore. Là.
Oui, c'est Delruy, mais il y a beaucoup de questions de Mozart aussi. Quand
Mozart
même. Concerto pour clarinette, notamment.
Oui.
Il est question même d'un clarinettiste...
Que j'ai trafiqué voilà. Pour ne pas citer le vrai.
Voilà.
Mais parce que je ne voulais pas... Il faut se méfier avec les Anglais, les musiciens anglais sont tatillons. Donc on a mélangé Gervas de Brumaire et... Non, Gervas de Payer et Jacques Brumaire, on l'a appelé Gervas de Brumaire.
C'est ça.
On n'a pas eu de procès.
En même temps, vous ne disiez pas tellement de mal de ce clarinettiste
non,
dans le dialogue.
Non, bien sûr, mais bon... Oui, ça c'était une expérience... un jour il m'est arrivé une expérience... Cette histoire est assez hallucinante parce qu'après les valseuses, j'ai pris quelques mois de vacances quand même. Je me suis empressé de rien écrire. Et donc j'ai passé 3-4 mois à faire des puzzles de 3-4 000 morceaux dans un chalet à la montagne dans lequel j'avais une table énorme et où j'écoutais de la musique en même temps et j'étais seul. Donc toute la journée, j'écoutais de la musique en faisant ces puzzles et en ne pensant surtout pas au cinéma. Et puis un jour, j'écoute le concerto pour clarinette de Mozart et sur le deuxième mouvement, sur l'andante, je me mets à écrire, et j'avais toujours un bloc quand même pas très loin de moi, et je me mets à écrire la scène, mais dans l'intégralité. Et le temps exact de l'andante, c'est-à-dire 3, sans doute 4 minutes, un truc ou 5 minutes. Et j'écris le truc, et puis je retourne, quand le morceau est fini, je retourne à mon puzzle, et puis voilà. Et le lendemain, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Il y avait les trois personnages, il y avait le voisin qui arrivait, il y avait tout ça.
La scène sur Mozart, enfin, dont
la
il est...
La scène sur voilà. Mozart, dont on parle souvent. Et c'est pour ça que j'ai fait le film, parce que j'ai attendu un peu, mais je me suis dit, il faut que je sache qui sont ces gens, pourquoi ils sont là, pourquoi j'ai écrit ça, etc. Et donc j'ai fait un film avec ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après, et la scène que j'avais écrite comme ça, d'une manière sauvage, était au milieu, sans raison. C'est bizarre, c'est un drôle de truc.
Bertrand Blier.
Surtout que c'est pas une musique très marrante en plus.
Pas tout à fait.
Non. Donc, y a des choses qu'on peut pas, je peux pas expliquer ça.
Et pourquoi vous avez demandé à Delruy d'être dans cette affaire-là, puisque c'était un peu compliqué pour lui, peut-être, non, par rapport à Mozart.
Oui, mais je voulais pas. Il y avait du Mozart dans le film, mais je voulais pas mettre du Mozart. Donc, j'ai été voir Georges, qui a été intéressé et qui m'a fait quand même pas mal de musique. La moitié du film, c'est lui. Il y a d'autres choses, mais je me souviens plus quoi.
On a surtout retenu Mozart, mais à cause évidemment à cause de la
mais
scène.
Mais c'est-à-dire que Delruy pouvait faire à la manière de Mozart. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je vais te faire à la manière de Mozart.
Mais est-ce que ça vous plaisait, justement, à la manière de Mozart?
Ça me plaisait, c'est-à-dire que je savais qu'il pouvait le faire.
Il l'a fait très bien, et il y a les gens qui ne sont pas très compétents ne savent pas faire la différence.
Parce que j'ai lu quand même que vous n'étiez pas tellement satisfait quand même de cette expérience par rapport à ce que vous aviez connu avant avec Georges Delruy.
Ah non, du tout, non, ça s'est bien passé. Enfin, c'était de la musique de film, là, c'était de la musique souvent un peu... d'accompagnement, il y en avait pas mal d'ailleurs. Mais on peut utiliser Mozart en musique de film et en accompagnement, c'est pareil.
Là, c'est quand même le premier film où la musique devient un personnage, quoi, d'une certaine manière à part entière.
C'est-à-dire que j'ai quand même vécu l'écriture du scénario en me disant, quand même, quand ils sont en train de parler, ils écoutent le concerto pour clarinette, il y a un mec qui tape à la porte, et je me suis dit, c'est Mozart. Mais j'ai pas eu le culot de faire... Bon, ils vont ouvrir, c'est pas Mozart, c'est le voisin, c'est Serrault. J'ai pas eu le culot, mais je regrette encore, et aujourd'hui encore, je me dis, mais c'est vraiment dommage, parce que ça aurait été mieux Mozart, quoi. Avec un costume d'époque. Ça, c'est un truc que j'ai pas encore fait, mais que j'ai rêvé de faire depuis longtemps, c'est le mélange des époques. C'est-à-dire Mozart, avec ses petites chaussures à talons, et ses... devant un mammouth, en banlieue, ça vomit, là.
C'est évoqué dans le dialogue, mais effectivement...
C'est évoqué dans le dialogue, mais quand ils vont ouvrir la porte, c'est Serrault. C'est pas très mozartien, quand même.
Imagine qu'il soit réincarné.
Qui ça ?
Ton pote, Mozart, tu vois le coup? Réincarné, bonhomme. Tu me suis? Il est là, en bas, dans la rue. Il marche, un peu étourdi, avec ses vêtements fripés. Il sait pas où il est. Y a personne dehors. Tout le monde roupille. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'il entend? Notre musique. Sa musique. Son concerto qui vient de quelque part. Oh, ça lui scie les pattes au mec Mozart. Il n'en croit pas ses oreilles. Alors il se laisse guider par le son. Les larmes aux yeux, il s'approche de notre maison. Il se dit, une vieille maison, ça doit venir de là. Il pousse la porte. Il entre. Il hésite. Maintenant, il entend mieux sa musique. Ça résonne dans le hall. Ça l'attire irrésistiblement. Il se dirige vers l'escalier. Il se dit, c'est pas possible qu'il y ait tout un orchestre dans cette baraque. Ou alors, c'est que vraiment, je suis devenu très populaire. Il s'engage dans l'escalier. Il monte tout doucement, marche par marche, avec ses escarpins et ses bas blancs. À chaque marche, son concerto est plus présent. Premier étage, deuxième étage, il arrive sur notre palier, il s'arrête. Il bouge plus. Il reste là, tremblant. Juste derrière notre porte, il écoute, en retenant sa respiration. Jamais il a entendu son concerto aussi bien joué. Gervase de Brumeur. Un clarinettiste comme jamais il avait osé en espérer un.
Tiens, vous signaler qu'il est 3h du matin et que je me lève à 5h pour aller au hall. Alors vous allez arrêter votre zinzin, sinon je vais chercher les flics.
Toi, tu vas taire ta gueule et écouter Mozart avec nous. Concerto pour clarinette.
Oui, mais moi j'en ai rien à branler de la musique. Moi, ce que j'aime, c'est le silence.
Gervase de Brumeur, meilleur clarinettiste du monde. Alors assieds-toi, ferme ta gueule et ouvre tes oreilles.
Mais enfin, puisque je vous dis que ce que je veux, moi, c'est dormir, c'est tout simplement dormir. Je suis fatigué. Je suis un petit commerçant fatigué. Bouffé par les grandes surfaces, pourchassé par les whiskies, j'ai le fisc au cul, j'ai l'URSSAF au cul, j'ai la caisse de retraite au cul, j'ai la France entière au cul. Et je peux même pas dormir à cause de votre musique. Alors moi, j'en ai rien à foutre de votre Mozart, mais je le connais pas ce mec-là, je l'emmerde. Ou alors qu'il me prête du pognon pour payer mes traites.
Laisse Mozart tranquille parce que c'est mon pote, hein. Lui aussi, il en avait des dettes. Sur la fin de sa vie, il avait même pas de quoi s'acheter du bois pour chauffer le cul. Et il composait quand même, alors.
Il vendait pas des légumes, lui.
Mais alors, qu'est-ce que vous avez contre les légumes? C'est un crime de vendre des légumes. Vous en mangez pas, des légumes.
On préfère la viande.
Et alors, il y a une opposition un peu quand même entre Mozart et Schubert dans le film. Schubert, que vous allez retrouver surtout dans Trop belle pour toi.
Est-ce qu'il y a un petit Schubert à la fin, oui.
Voilà,
oui.
Qui est choisi par le Riton Liman, enfin par le jeune homme.
Oui, sans doute, je me souviens plus. Non, ce qui m'a amusé, c'est que le personnage de ces deux garçons, Patrick et Gérard, étaient fascinés par Mozart. Et tout d'un coup, on leur met du Schubert, et là, il ne faut pas leur raconter d'histoire, ils ne se laissent pas avoir, quoi. Ils disent, c'est pas du Mozart, ça. Et ça m'a amusé de voir, c'était des crétins, quand même, deux crétins dans le film. Totalement incultes. C'est là où il y a la scène où on voit Patrick, qui connaît tout le livre de poche par cœur, par les numéros seulement.
C'est ça. Et vous préférez Mozart ou Schubert, alors
Oh, je préfère Mozart. Non, mais Schubert, j'en écoute plus, je ne peux plus en écouter. J'en ai écouté pendant un an pour faire mon film Trop belle, mais vraiment beaucoup, et tout, hein, même les opéras. Et donc, j'en écoute plus, non.
Mais tout c'est venu d'où l'idée de faire un film où Schubert serait une sorte de personnage, enfin en tout cas sa musique, comme c'est vrai dans Trop belle pour toi.
J'ai eu l'idée du film, et puis après j'ai eu l'idée de Schubert, parce que je me suis dit, j'avais déjà écouté pas mal, hein, je connaissais Schubert, et j'avais surtout digéré l'intégrale par Brendel de l'œuvre pour piano, qui est extraordinaire. Et donc je me suis dit, bon, faut mettre la musique la plus désespérante, la plus triste qui soit, c'est Schubert.
Bertrand Blier.
Donc j'en ai mis beaucoup, et c'est devenu un personnage, presque un fantôme dans le film, puisque même à la fin on l'insulte.
Ça plaisait à Depardieu et à Devers, ces dialogues, enfin ces tirades.
Ah
bah
là,
sur
il
n'y
avait
musique.
Pas Devers dans celui-là.
Non, pas dans celui-là. Mais
Gérard était très content, et j'ai même découvert un truc, c'est qu'il a une oreille phénoménale. C'est-à-dire qu'il était capable de jouer avec la mémoire du morceau, parce qu'on ne pouvait le mettre que sur un plan. Moi, j'ai tourné avec une scène où il y a un premier plan, où il écoute le quatuor, la jeune fille et la mort, en dit non, il supporte pas. Et donc, il se lève. Et puis derrière, il y a un deuxième plan. Donc, le premier plan, j'ai mis la musique. Et le deuxième, je pouvais pas. Donc, il a joué avec la mémoire. Et il joue sur la partition. Avec la mémoire du morceau qu'il a écouté juste avant. Non, enfin, fantastique.
Cette musique.
Quelle musique ?
T'entends pas une musique là ?
Où ça ?
Dans la maison.
Une musique dans la maison ? Qu'est-ce que c'est que cette musique ?
Un imprévu de Schubert.
C'est toi qui as acheté ça ?
Oui.
Pourquoi faire ?
Comment ça, pourquoi faire ?
T'as très bien entendu. Je te demande pourquoi faire.
Mais enfin, l'engueule pas. C'est son prof de musique, il a un exposé à faire sur Schubert.
Un exposé ?
Oui, un exposé. Sa vie, son œuvre, son influence.
Oui, mais moi, elle me bouleverse, cette musique.
Vous êtes quand même un peu, peut-être un des rares cinéastes, peut-être pas le seul absolument, enfin, disons, il y a Godard, mais c'est totalement autre chose.
Qui... Ah, il utilise très bien la musique.
Oui, bien sûr. Oui, non, mais je parlais vraiment de quelqu'un qui met en scène, enfin, qui prend la musique comme une matière, enfin, comme un personnage, oui. Quoi, voilà. Et notamment la musique classique. Bon.
Oui, c'est pas très courant. Mais je ne l'ai pas fait beaucoup, je l'ai fait une ou deux fois, oui.
Ça a marqué les esprits, parce que ces deux films, Préparez vos mouchoirs et Trouvez-le pour toi, qui sont quand même parmi ceux qu'on connaît très bien, dans ouais, y a d'autres, hein, évidemment.
Surtout Trouvez-le avec Schubert, parce que ça faisait rire, quoi. Ça fait rire les gens quand on leur dit, on va vous mettre la musique la plus sinistre, c'est Depardieu qui l'écoute, et qui est marchand de voiture. Ça fait rire les gens.
Alors, vous n'avez pas pu faire de disque alors, pour ce film, finalement, qui était pourtant...
Ça a été très compliqué parce que je voulais avoir les droits d'Alfred Brendel et on a tourné avec les musiques, les enregistrements d'Alfred Brendel. On a tourné beaucoup avec des musiques. Et quand Gérard arrivait, on commençait à tourner le matin, il me disait, mets-moi un petit coup de ton Schubert là pour que je me mette en...
Bertrand Blier.
Alors on lui envoyait le troisième impromptu ou des choses comme ça et il me disait, c'est bon, on peut tourner. Extraordinaire. Et donc je voulais les droits d'Alfred Brendel, et puis on n'a pas pu les avoir au dernier moment. Donc il a fallu trouver quelqu'un qui enregistre, parce que j'avais tous les enregistrements, mais j'en aimais aucun. Il n'y avait que Brendel qui m'intéressait. Donc j'ai été voir une femme que j'avais eue en séance d'enregistrement avec Delru sur les mouchoirs, qui s'appelait Odette Gartenlaub. Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez jouer à la manière de Brendel ? Alors elle m'a dit, écoutez, il faut que j'écoute. Alors elle m'a dit oui. Et elle a travaillé 3 semaines pour trouver le toucher de Brendel. Et on a enregistré avec elle. Et on y voit que du feu. Même moi, aujourd'hui, on n'entend rien, plutôt, je dis.
Donc ça, c'est ce qu'on entend dans le film, en fait.
On entend Odette Gartenlaub, oui. Et pas de Brendel. Mm-hmm. Et les gens, après, allaient acheter le disque dans les Fnac et demandaient la musique du film et on leur disait acheter Brendel, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur.
Oui, effectivement, c'est un...
Il y a... doit de l'argent un peu, quoi, en fait.
Qu'est-ce que c'est encore que cette musique, là ?
Un couture de Schubert.
C'est agréable en mangeant. Ça donne de l'appétit.
C'est de la musique romantique, hein. Ça n'a jamais été écrit pour être gay.
Non, mais il y a des limites. Écoute-moi ça, on a l'impression que c'est la fin. Mais qu'est-ce qu'il avait dans la tronche, ton Schubert, pour nous pondre une musique aussi triste ?
Il était très malade, malheureux.
Oui, ça se sent. Il a bien fait passer le message. Merci pour l'ambiance. Oh là 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 là! Mais il n'est pas bientôt fini ton exposé? Moi, je vais aller le voir, ton professeur de musique, si ça continue.
Il y a quand même un film où vous y avez fait allusion. Il y a effectivement quasiment pas de musique, c'est Buffet froid. Il y a juste un peu de Brahms, je crois.
Un petit peu de Brahms.
Et une apparition quand même d'un orchestre en plein milieu du film qu'on décime.
Il y a un orchestre, il y a un quatuor qui vient, ou un quintet, je sais
plus. Un quintet, oui, en l'occurrence.
Quintet. Ils viennent pour tuer. Et ils viennent pour tuer mon père, qui est dans un lit, avec son costume croisé. Et les musiciens l'encerclent et lui jouent le quintet de Brahms. Et il est obligé de sortir son flingue et de tuer tout le monde. Ah, sinon, c'est la mort pour lui. Je trouve que c'est assez juste, cette conception de la musique, là. Quand on n'a pas envie d'en entendre, tout d'un coup... Et puis Brahms, c'est impressionnant, ouais.
D'ailleurs, il dit, on lui pose la question, je crois, est-ce que vous aimez Brahms? Et il dit pas du tout.
Oui.
Ce qui est d'ailleurs une réplique qu'il y a, je crois, dans Un bout de souffle, dans la bouche de Jean-Pierre Melville, qui répond à peu près, aimez-vous Brahms?
Même genre de truc.
Oui, genre. Bon, c'était l'époque aussi du roman de Sagan, bien sûr, mais bon. C'est marrant parce que moi, j'ai revu le film hier soir, donc du coup, je l'ai bien en tête, et je me souvenais pas qu'il y avait pas de musique, ou pratiquement pas de musique, et ça manque pas d'ailleurs. Et c'est même un film où on a l'impression que le concept, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de musique. C'est, j'imagine que vous l'avez pensé comme tel.
C'est dans le scénario. On tue les musiciens et on s'aperçoit que le personnage que joue mon père a vécu avec une femme qui était une grande, il le raconte, qui était une grande violoniste.
Bertrand Blier.
Ça l'a tellement gonflé d'entendre les arpèges le soir qu'il l'a, il lui a branché son bain sur le 220 ou sur le triphasé, je ne sais plus. Et elle est morte dans son bain. Et donc c'est un film contre la musique et pour le meurtre. Donc c'est un film intéressant.
Qui fonctionne très bien d'ailleurs.
Qui fonctionne maintenant, mais à l'époque, quand c'est sorti, ça grinçait quand même.
Ça vous est arrivé à un certain nombre de reprises,
oui.
Un certain nombre de films, oui.
Non, mais là, c'était spécial, parce que je me souviens d'être allé dans les salles, et les gens disaient, à la caisse, on nous disait, on a beaucoup de gens qui se font rembourser. On avait le droit de se faire rembourser dans les 10 premières minutes, je crois. Ils sortaient 20, 40, et en engueulant le caissier. Pas nous prendre pour des cons, quand même, il y a des limites...
Le film a quand même pas si mal marché, non?
Oui, non, il n'a pas mal marché, il n'a pas mal marché.
Non. Non. Je savais que vous aimiez la musique de chambre. Fermez les yeux et écoutez.
Non. Pas la musique. Pas le temps.
Venez boire une coupe de champagne, mon ami. En quelques instants, tout sera terminé. Conseil à vous donner, jeune homme, ce serait de mieux choisir vos relations.
Oh, mais je connais à peine, c'est juste un voisin.
Il a fait beaucoup de mal.
Non, je m'en doutais.
Rassurez-vous, il ne fera bientôt plus de mal à personne.
Morvandio vendra chèrement sa peau, et les fantômes n'ont qu'à bien se tenir.
Allez, viens, tu déconnes complètement.
Mais j'ai pas fini! Allez, viens!
La folie de Bertrand Blier, en tout cas de ses films, Buffet froid à l'instant, avec l'assassinat donc d'un quintet à cordes qui joue du Brahms. Et c'était les voix, bien sûr, de Bernard Blier et Gérard Depardieu, également Denise Jans, une sorte de figure de la mort dans cette séquence commentée par Bertrand Blier. Juste avant, dans l'entretien, donc il m'a donné la deuxième partie de cet entretien, puisqu'on a écouté la première la semaine dernière. Et auparavant, alors, concernant les extraits de films, tous liés à la musique classique en particulier, il y avait deux extraits de Trop belle pour toi, autour bien sûr de Schubert au piano et en quatuor à cordes, la voix de Gérard Depardieu est fugacement celle de Carole Bouquet, l'épouse de Gérard Depardieu dans le film, alors que Josiane Balasko joue le rôle de la maîtresse, bien sûr, on l'a pas entendu ici, mais Schubert est omniprésent dans ce film. Et puis un autre extrait, deuxième extrait de Préparez vos mouchoirs, toujours avec Gérard Depardieu et Patrick Devers, et également l'irruption de Michel Serrault, donc qui, comme le disait Bertrand Blier, n'est pas tout à fait mozartien. Alors on va changer un peu de style de musique maintenant pour la deuxième séquence avec Bertrand Blier, la deuxième salve d'entretien avec Bertrand Blier. Et là, il sera non plus question tellement de musique classique, mais plutôt de Philippe Sard et du film Beau-père, également de Martial Solal pour le film Les Acteurs, et puis de Rallette qui avait collaboré avec Bertrand Blier pour 1, 2, 3 Soleil. Mais la parole à Bertrand Blier. Alors après, il y a le cas Philippe Sard, qui, je crois, a vaguement participé à l'histoire de Buffet Froid, mais qui est surtout présent dans Beau-père, puisqu'en plus, le personnage de Devers est un pianiste de bar, enfin, pianiste en tout cas, qui est censé aimer, je crois, Bud Powell en particulier, non ?
Oui, absolument.
Il y a le fameux monologue donc, du début du film, qu'on entend sur le CD aussi, et d'ailleurs, je crois, c'est pas la même version.
Il y a deux versions, il y en a une dite par Patrick et une autre dite par moi.
Oui, c'est ça, oui. Vous avez aussi fait.
Et c'est quasiment pareil.
Et c'est d'ailleurs. Alors là, ça marche extrêmement bien.
Je l'ai enregistré parce que c'était pour montrer à Patrick comment je le concevais. Parce que Patrick était très attentif aux intonations de l'auteur. Et il avait raison, parce qu'on est quand même les mieux placés pour. Donc je l'ai enregistré, puis ça m'amusait.
Bertrand Blier.
Et donc j'ai demandé, pour ce film-là, j'ai demandé à Philippe Sard, qui était un copain de. Et le frère de mon producteur, je lui ai proposé de faire la musique et il a fait la musique du film.
Qui est une musique. Alors, là aussi, il y a pas mal de musiciens de jazz qui apparaissent, et notamment Maurice Vander. Bon, qui est,
oui, alors il y a du piano solo, il y a du jazz, il y a pas mal de trucs, oui.
Mais c'est. Enfin, alors, vous aviez dit à l'époque que c'était une des musiques les plus déprimantes. Que vous aviez demandé une musique déprimante et que c'était au-delà de vos espérances.
Je me souviens plus ce que j'ai dit. J'en ai dit des choses.
Non, mais il y a quand même un côté très dépressif dans le.
C'est un film, en toute façon, c'est un mélo. Hein. C'est un film qui voulait être bouleversant. Hein. Je ne sais pas s'il l'a été, mais. Donc, j'ai demandé à Philippe Sard de me faire une musique un peu qui colle un peu. Chose qu'il sait très bien faire.
Oui, oui, il était plutôt dans cette catégorie de musicien, en effet.
C'est pas le Patrick Sébastien de la musique, quoi.
Pas exactement. Vous n'avez pas tellement utilisé, finalement, de musique Siguet non plus, puisqu'on parle souvent de musique, finalement, qui produise un effet un peu dépressif. J'ai cherché
Ça peut être comique aussi, une musique parfois utilisée à contre-temps, à contre-emploi, ça peut être assez marrant. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire du cinéma de gens qui ont utilisé les musiques pour autre chose que pour émouvoir. Quoi. Même Kubrick, qui n'était pas, je pense, pas tellement attendre, il nous a bien. Il a pris les meilleurs quand même.
C'était l'époque où je travaillais comme pianiste dans un restaurant panoramique au dernier étage d'un hôtel international avec vue imprenable sur la capitale. Ça aurait pu tout aussi bien se passer à Montréal, à Zurich ou ailleurs. Il y aurait eu la même proportion d'Américains, de Japonais, de Saoudiens. Les mêmes créatures aux yeux fatigués d'avoir trop compté les dollars. Je pouvais leur jouer n'importe quoi. Gershwin, Chopin, Art Tatum. De toute façon, ils n'écoutaient pas. Tout ce qu'on me demandait, c'était de faire le moins de bruit possible. Juste un peu d'ambiance. Quelque chose de ouaté, comme un velours. Pour accompagner leur Saint-Emilion, leur Shrimp Cocktail, leur T-Bone Steak. Alors je jouais pour moi tout seul des vieux airs de Bud Powell, dont j'essayais de retrouver le phrasé sans jamais y parvenir. Car je ne parvenais jamais à rien. J'ai jusqu'à 30 ans pour réussir quelque chose dans la vie. Et j'avais 29 ans et demi. Il me restait plus que 6 mois. En attendant, on me filait 150 balles par soirée, plus la bouffe et la boisson à volonté. J'étais content. Le seul problème, c'était que je venais juste de me faire engager et les salauds, ils n'avaient pas voulu entendre parler de la moindre avance. Même minime. Dire que j'attendais avec impatience la fin de la semaine pour toucher mon pognon et la fin de la soirée pour aller me coucher. Vers minuit, les tables commençaient à se dégarnir. En général, je me retrouvais en tête à tête avec un couple d'amoureux, des retardataires de l'affection que j'avais pour mission de mener à bon port avec mon clavier magique. Allez donc savoir ce qui se passe dans la tête d'un pianiste, derrière ses touches, pendant que vous sirotez votre champagne. Si ça se trouve, lui aussi il est amoureux. Ou triste, parce que sa femme l'attend. Ou parce que sa femme l'attend plus. Parce qu'elle vient de le quitter, ou parce qu'elle va le quitter.
Il y a des cinéastes que vous admirez pour leur utilisation de la musique.
Je pense à Kubrick, je pense, bien sûr, il y a ceux qui ont rencontré leur compositeur, comme Fellini, par exemple. Puis il y a les bricoleurs de génie, comme Godard, qui fait des choses hallucinantes. Quoi. Je me souviens de Nouvelle Vague, par exemple, que j'avais vu au Festival à Cannes, dans cette salle sublime. C'est extraordinaire.
Bertrand Blier.
Alors après, on achète les disques pour regarder les références, puis il ne met pas tout. On peut mettre beaucoup de musiques différentes sur un film. On peut se permettre des choses très bizarres.
Vous n'êtes pas quelqu'un qui a effectivement travaillé tout le temps avec le même compositeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez pas mal varié les plaisirs.
Mais j'ai arrêté les compositeurs maintenant, depuis un certain nombre de films, oui.
On sent d'ailleurs que dès la première moitié des années 80, vous êtes moins tenté par l'idée de prendre un compositeur, finalement.
C'est-à-dire que Georges Delerue est mort, il est parti d'abord en Amérique, et il me disait toujours « Viens, on fera une musique là ». Oui, il est mort. Ensuite, j'avais pas d'attirance très très violente pour les compositeurs français. J'ai eu un contact avec Maurice Jarre un jour, qui m'a reçu très gentiment par téléphone. Parce que là, c'était du sérieux, Maurice Jarre. Mais bon, quand j'ai eu les conditions financières, on a laissé tomber, parce que c'était, on peut pas tout faire en France. Mais sinon, je préfère acheter des droits et faire ma cuisine, mais ça peut changer.
Il y a eu quand même un cas, oui, il y a eu un exemple, un contre-exemple, c'était Marcel Solal, pour les acteurs.
Voilà, alors Marcel Solal, ça c'était la vraie commande, je lui ai commandé la musique et on l'a faite quasiment ensemble, enfin pas ensemble, mais puisque aujourd'hui on travaille devant des écrans d'ordi, etc. Donc c'est... Ça c'était passionnant. C'était parce que, en fait... Il y a eu un disque qui est sorti à cette époque-là, au moment où j'écrivais, c'était pour les acteurs, un disque de Martial, qui est sorti avec un gros orchestre extrêmement dérangeant, et ça m'a remis en mémoire que c'est lui qui avait fait À bout de souffle, quand même, donc il n'est pas pour rien dans l'histoire du cinéma français. Et donc on a fait une musique bien dérangeante, ce qui n'a pas facilité, je crois, beaucoup le succès du film. Entre autres.
Mais c'était, oui, c'est parce que là, du coup, le jazz n'était plus du tout à la mode, on va dire,
non.
Ou l'actualité même, à cette période-là.
Non, du tout. Donc non, il ne faut surtout pas mettre de jazz dans le cinéma aujourd'hui.
Vous dites ça comme une profession de foi ou comme un constat ?
Je vois les enfants, moi j'ai des enfants grands, et je vois bien ce qu'ils ont dans l'oreille. On ne peut pas leur imposer... talonnement que ou des choses, c'est pas possible.
Mais est-ce que vous êtes tenté, vous, de mettre, par exemple, des musiques, on va dire, à la mode, ou qui sont des musiques du moment, dans certains de vos films ?
Non, mais je me tiens à l'affût, quand même. C'est-à-dire que j'achète plus grand-chose, mais j'écoute, je fais attention. Ma fille, qui a 14 ans, me tient au courant, me fait entendre des trucs sur ces MP3 pourris, là. Et donc, voilà, et donc j'essaie d'être un peu au courant, mais il n'y a rien d'intéressant. Tout est pareil. On parle de temps en temps une voix, et bon, bien sûr, mais j'écoute même attentivement les disques qui sont offerts par les Inrecuptibles de temps en temps, c'est intéressant. Là, on est vraiment au cœur du débat, là. Mais il n'y a pas de gens qui me donnent envie de prendre un téléphone et de... Non.
La pop en général, ça vous a intéressé ou pas particulièrement ?
Ça m'a intéressé relativement, un petit peu, oui. Pas des masses. Mais il y a des choses que j'aime beaucoup. Bah, par exemple, j'ai fait un film qui s'appelle Merci la vie, que devait faire Gainsbourg. Mais Gainsbourg était d'accord, mais il était sur la fin, il était très fatigué. Bon. Et moi, je lui avais dit on pourrait faire un tandem avec Dylan. Ou Dylan ou Lou Reed. Et Serge avait dit, l'un des deux, c'est formidable, si on peut. Mais on n'a pas pu même les avoir au téléphone. Même pas un contact, rien.
Bertrand Blier.
Donc Serge, après, a été malade, il n'a pas fait le film. Donc je me suis débrouillé en faisant appel à d'autres gens. J'ai acheté énormément de musique. J'ai même remixé un disque d'Arnaud. Arnaud, le chanteur qui est merveilleux. Il n'a qu'un défaut, c'est qu'il boit encore plus que Gainsbourg. Mais... Il m'a autorisé à remixer, c'est-à-dire à enlever des paroles d'une chanson pour une scène, etc. Enfin, des trucs... Puis j'ai eu aussi une autre aventure musicale très intéressante, c'est 1, 2, 3 Soleil avec Khaled. Parce que je pourrais presque dire, sans exagérer, que j'ai fait le film pour la musique. Parce que j'avais un disque, le premier disque qu'on a eu de Khaled était extraordinaire. Et je l'avais acheté et mis de côté en me disant un jour je ferai un film où ça se passera dans les banlieues nord de Marseille et on entendra cette musique-là. Puis les années se sont passées, mais puis finalement un jour j'ai fait le film. Et j'ai enregistré avec Khaled des choses, ça c'était difficile aussi.
Il y avait de la musique originale un peu dans...
Il y avait de la musique originale, et puis il nous a donné des disques qui n'étaient pas sortis, qu'on a remixés, etc.
Et il y avait du Bruckner aussi.
Oui, il y a toujours un petit peu de... On fait son marché autour.
NCC, Ralette, donc à l'instant, Ralette qui fut donc le complice musical de Bertrand Blier sur 1, 2, 3 Soleil, évoqué par le cinéaste lui-même, bien sûr, dont on écoutait cet entretien, enfin cette partie d'entretien que j'ai réalisé avec lui il y a quelques semaines, pour le diffuser maintenant, dans la période des fêtes, comme on dit. Et auparavant, on a écouté Martial Solal pour un extrait de la bande originale Des Acteurs, donc un film peut-être moins connu de Bertrand Blier, mais qui mérite d'être redécouvert, où les acteurs du cinéma français jouent leur propre rôle dans une fantaisie comme Bertrand Blier en a le secret. Auparavant, la voix de Patrick Devers, la musique de Philippe Sard et le piano de Maurice Vander pour le fameux monologue de Beau-père qu'on entend au tout début du film et qui est repris d'ailleurs dans le CD que Stéphane Le Rouge a réalisé avec Bertrand Blier pour reprendre, et Philippe Sard bien sûr, pour qui reprend l'intégralité de la musique de ce film. Alors on va retrouver Bertrand Blier une dernière fois dans cette émission, une dernière fois, et il va nous parler à nouveau. On va revenir un peu à la musique classique, à la musique contemporaine, les deux à la fois, avec du Bohuslav Martinu, de l'opéra italien, ou du Beethoven, et puis aussi du Miles Davis. Tout ça va être évidemment évoqué par Bertrand Blier. On suit le fil de sa pensée musicale, et on le retrouve tout de suite.
France Musique.
Vous avez quand même des choix qui sont souvent singuliers par rapport à la musique, enfin à la musique classique, parce que quand même Bohuslav Martinu, par exemple, dans notre histoire, c'est pas totalement un musicien qu'on entend tous les jours dans le cinéma ou ailleurs d'ailleurs.
C'est pas ce que j'ai fait de mieux, parce que j'ai eu un coup de foudre pour Martinu. Je sais pas pourquoi je l'ai découvert. Je l'ai écouté énormément, et quand on a fait le film, j'ai eu envie de mettre cette musique, et on a acheté des tonnes de droits, et ça rendait le film encore plus difficile à comprendre.
C'est un film très curieux, que j'ai revu aussi, très curieux pour plein de raisons, mais effectivement pour le Martinu, et en plus il y a une musique, je dirais, originale, semble-t-il, qui est assez fonctionnelle.
Oui, qui est une espèce de truc de boîte de nuit.
Voilà, ouais. Et du coup ça fait vraiment un effet très étrange, mélange de...
Mais le film est étrange, de toute façon.
Très étrange, alors bon. En effet. Mais Delon a quand même eu le César pour le film, finalement, et vous avez
eu le César aussi.
Donc finalement...
Mais il n'a pas été le chercher.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Non, parce qu'il voulait être sûr de l'avoir. Alors il disait, à l'époque, c'était Georges Cravagne qui négociait ça. Il disait à Georges, je viens si je suis sûr. Mais on n'est jamais sûr. Et d'ailleurs, ça a été prouvé par cette histoire, on ne savait pas. Donc il n'est pas venu. Et il l'a eu. Et c'est Coluche qui a ramassé, qui a fait le numéro.
Ah oui, c'était
sur la Suisse et tout ça. Sûr, il est en Suisse. Il compte ses sous.
Allez, Robert, sois raisonnable. Il va falloir que tu viennes avec nous. Il y a ta femme et tes enfants qui t'attendent, vieux.
Tenez, tu vois sa valise.
Mais attendez, je crois bien que celle-là, c'est la mienne.
Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Allez, reste assis, t'occupe de rien.
Bah oui, mais quand même, c'est ma valise.
C'est une histoire dans laquelle il ne faut pas trop s'occuper ni des valises, ni des détails matériels. Il y a des trains, il y a des compartiments, il y a des voyageurs qui se réveillent au milieu d'un rêve et puis qui s'aperçoivent que c'était pas un rêve. Il faut se laisser emporter. C'est comme toutes les histoires.
Je voudrais rester dans ta maison, dans la sienne. Elle me plaît bien, ta maison. Puis ton histoire aussi, elle me plaît bien. Surtout depuis tout à l'heure, quand tu t'es mise à sourire. Je voudrais rester encore un peu. S'il te plaît. T'auras qu'à m'utiliser comme personnage secondaire. Je ferai une apparition comme ça de temps en temps, puis c'est tout. Je resterai en coulisses.
Je crois qu'il est temps que vous l'emmeniez avec vous, parce que là, il commence à s'attendrir, et quand les mecs commencent à s'attendrir, en général, il faut s'attendre à des emmerdements.
Allez, viens, Robert. On va attaquer un autre chapitre, maintenant.
Vous interdit de me toucher!
Mais arrête de faire le con, Robert, merde!
Très attention à chacun de vos gestes, hein. Parce qu'il y a un mec qui vient de me piquer mon fauteuil, et j'ai l'intention de le récupérer, mon fauteuil! Le premier qui s'approche, il a mon pied dans les couilles! Et mon fauteuil. Tu as le droit de baiser ma femme, mais t'as pas le droit de t'asseoir dans mon fauteuil. Il y a quand même un minimum de choses à respecter dans cette maison.
Hé, hey, Robert, ça...
Hey, y a les voisins qui commencent à se plaindre.
Et puis il y a dans Combien tu m'aimes, c'est de l'opéra quasiment que de l'opéra italien même.
C'est
quasiment.
Un hymne à la femme italienne et à l'Italie.
Ça vient de Monica Bellucci, enfin en tout cas du personnage et de l'actrice.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, pour une fois, tout va dans le même sens. Là. Il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a que de l'opéra.
Quasiment, enfin, je crois qu'il doit y avoir un ou deux...
Ah si, il y a un morceau d'Archichep. Ouais. Ah oui.
Dans le disque, il y a Abdullah Ibrahim.
Oui, c'est ça.
Ah, voilà, c'est ça, oui. Et sinon, c'est effectivement Bellini, Verdi, Vivaldi...
Il y a un morceau que j'avais depuis des années, parce que souvent je garde des morceaux comme ça, et je les utilise 10 ans après. J'avais ce thème Archichep, Dollar Brand, à l'époque il s'appelait Dollar Brand, le Abdullah, là. Morceau fantastique, et je voulais les faire réenregistrer, je ne suis pas arrivé, donc on a acheté le morceau, on l'a découpé, on l'a mis dans le film, donc il n'y a pas que de l'opéra quand même, il y a un choc de deux mondes.
Bertrand Blier.
Parce qu'il y a un personnage qui vit à Pigalle quand même.
C'est sa musique qui est liée un peu au bar de nuit.
Oui, à cette ambiance un peu ascenseur pour l'échafaud, un peu Pigalle.
Mais le reste, effectivement, est traversé par les airs d'opéra en permanence.
Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas du tout, j'ai pas eu d'écho sur les, en provenance des Italiens, je ne sais pas comment ils apprécient ça, je me rends pas compte. Parce que ce qui est très étonnant, ça m'est arrivé aux États-Unis, c'est que parfois on met une musique qui paraît impeccable, et on a, quand ça passe ailleurs, ça déclenche une réaction totalement... Et par exemple, dans Le bruit des glaçons, j'ai une scène d'amour, une scène assez sérieuse, où on voit un Alvaro qui se déshabille et qui va se glisser dans le lit du jardin qui dort ivre mort. Et là-dessus, j'ai mis une chanson de Leonard Cohen. Très discrète, mais quand même, Leonard Cohen, c'est la grosse voix. Et quand j'étais en projection à Los Angeles dans un festival, le film passe, tout se passe très bien, et au moment où ils entendent la voix de Leonard Cohen, énorme éclat de rire. Et donc, je n'ai pas compris pourquoi, parce que j'avais vérifié les paroles, évidemment. Hein. Je ne voulais pas une chanson comme ça. Il n'y avait rien qui... Mais je pense que c'est la voix qui les a fait marrer, quoi. Qu'on ait mis cette voix, ça les a... c'est comme si on mettait Yvette Horner, nous, sur un truc, voilà.
Thank you.
Quand vous travaillez justement avec des compositeurs ou des musiciens comme ça, vous aviez un dialogue particulier ou c'était compliqué d'arriver à leur parler? Parce que souvent, c'est ce qu'on dit dans le dialogue entre un réalisateur et un compositeur, s'il y a un problème de langue, en fait.
On ne parle pas la même langue parce qu'on ne sait pas lire la musique, et si on, ce qui est mon cas. Et puis, on ne fait pas le même boulot. Mais enfin, on peut faire circuler des émotions, on peut donner des envies de choses. Il faut le faire pas trop tard, il ne faut pas attendre d'être en séance d'enregistrement. Mais ça arrive de donner des indications à des... par exemple, j'ai vu avec Martial Solal, qui est un maître, qu'il ne faut pas l'emmerder. Hein, c'est pas... Mais quand même, on peut tout d'un coup, si on entend un truc qui choque un peu un trompettiste qui a fait un truc un peu fort, on peut lui dire, il le prend très bien et il le corrige. C'est pas... c'est des petits détails, hein, mais on est là pour ça.
Vous n'êtes pas musicien, donc, mais vous n'avez jamais été tenté de jouer d'un instrument, ou ça, c'est quelque chose qui vous a jamais...
C'est quelque chose que j'ai jamais fait et qui m'a toujours beaucoup manqué, parce que mes parents, je ne sais pas ce qu'ils ont trafiqué, mais ils n'ont pas été fauchés de m'apprendre à faire du piano, et j'ai regretté toute ma vie, d'autant plus qu'il y en avait un dans la maison donc, et que ma mère en jouait, donc c'est tout de même assez aberrant, quoi.
Et après, non, une fois que vous étiez émancipé, on va dire.
Oui, non. Après, non.
C'était plus tout à fait le moment.
Non, je me suis livré aux joies d'écouter des choses. J'ai beaucoup écouté de musique, vraiment, mais il faut être seul pour écouter vraiment bien. Parce que quand on se lance dans, une passion ou des choses comme ça, bon, faut du temps, faut pas être dérangé tout le temps. C'est pour ça que maintenant, j'écoute moins, j'écoute plus beaucoup.
Mais ce serait quand même la musique classique, entre guillemets, qui resterait votre musique de prédilection, malgré tout.
Oui, bien sûr. Mais la musique classique, encore faut-il avoir fait son choix à l'intérieur. Parce qu'on peut écouter beaucoup de musique par curiosité, on est intéressé, mais la musique du cœur, celle qu'on aime profondément, ça se limite à 4 ou 5.
Bertrand Blier.
C'est-à-dire qu'on est toujours sur les mêmes.
Et c'est quoi pour vous, là, par exemple, les 4 ou 5 ?
C'est Bach, Mozart, Beethoven... Moi, j'ai une théorie, c'est que Beethoven, ça remonte le moral. C'est-à-dire, quand j'ai un problème, quand j'ai un coup de mou, un gros coup de mou, je me mets les quatuors de Beethoven, et en 10 minutes, un quart d'heure, je suis d'aplomb. Pourquoi ? Parce que c'est une leçon de... D'abord, c'est beau, et puis ensuite, c'est une leçon d'intelligence. C'est une leçon de courage, d'intelligence, de... On ne peut pas dire que Beethoven soit un humoriste, mais il y a quand même des choses... Alors que Mozart est à utiliser avec, par exemple, si on est triste, il faut se méfier de Mozart.
Et pourtant, la réputation d'être plus joyeux, a priori.
Oui, mais c'est un faux joyeux. Il y a de la nostalgie, souvent, beaucoup.
Ça vous cueille un peu par surprise.
Alors. Oui, alors que Schubert matraque d'entrée de jeu.
Et les compositeurs du XXe siècle, je dirais, avant la musique contemporaine, c'est-à-dire les Ravel, les Debussy, Stravinsky et autres, ça c'est quelque chose qui vous touche
Pas beaucoup. Alors j'écoute, je m'intéresse, mais Stravinsky, oui, ça m'intéresse un peu plus. Mais Ravel et Debussy me gonflent bien, oui, me gonflent, oui. Mais j'ai les disques, j'ai travaillé la question.
Oui, on n'en retrouve pas trace d'ailleurs dans vos films, non. Enfin dans les choix de vos films, hein, a priori.
Oh, ça peut arriver. J'ai bien mis du Martinou, du Gorecki. Et...
Non, je parlais spécifiquement de Ravel, Debussy en l'occurrence.
Debussy, non, pour l'instant. Peut-être. Dans Merci la vie, il y avait une musique extraordinaire. J'aime bien trouver les incunables, les petites musiques qu'on ne connaît pas. Puisque vous l'avez revu il n'y a pas longtemps dans notre histoire, il y a un petit morceau de Beethoven pour mandoline. Il y a deux instruments, je crois. Un concerto pour mandoline de Beethoven. Qui est introuvable. Moi, je l'avais en vinyle, aujourd'hui, c'est même pas la peine de...
Mais les interprétations sont importantes pour vous aussi, dans les choix, par exemple, que vous faites des musiques.
Oui. Oui, bien sûr. Et puis, il y a des problèmes d'accès aux droits. Acheter des musiques, c'est bien gentil, mais quand vous avez affaire au Linden Symphony Orchestra, c'est beaucoup plus dur que d'acheter de la musique en Hongrie, par exemple.
Mais si vous devez payer... aussi pour l'orchestre et pas seulement... Enfin oui, enfin, essentiellement pour
l'orchestre.
Mais...
En Angleterre, c'est compliqué parce qu'il y a un syndicat des musiciens qui est très puissant et donc ils réclament... c'est même pas la peine, quoi.
Donc,
mais ils sont des bons, mais ils sont forts. Thank you.
Vous aviez eu un choix musical à faire pour cette émission, qu'est-ce que vous auriez, enfin, je ne sais pas si quelque chose qui vous passe par la tête comme ça, que vous auriez eu envie d'écouter.
Il y a tellement de choses, on peut penser à ma jeunesse. À ce moment-là, on met Bach's Groove de l'enregistrement de Miles Davis avec Thelonious Monk, qui est un des grands trucs que j'écoutais parfois 14 fois dans la journée, ça, moi, quand j'avais 15 ans. Bach's Groove, facile à trouver. Sinon, il y a plein de trucs. Mais on ne va pas mettre du bac, on ne va pas s'emmerder avec ça.
Ouais, sur France Musique, ce n'est pas rare.
Non, mais justement. Dire, mais Bach's Groove, vous ne le passez pas souvent. Quoi. Ça, c'est les
probablement
trucs...
moins. Oui. Ah, c'est, oui, oui. Quoi que c'est un classique.
Non, mais c'est très beau, c'est très fréquentable.
Thank you.
Le back groove de Miles Davis et Mick Jackson et Thelonious Monk notamment présent dans cet enregistrement. Ce morceau choisi donc pour boucler cette émission, choisi par Bertrand Blier qui était l'invité d'honneur dans Cinéma Song donc ce soir et la semaine dernière, et que je remercie encore de s'être prêté à ce jeu cinématographique et musical qui consistait un peu à, voilà, à parler de ses rapports avec la musique dans ses films et dans sa vie en tant qu'auditeur. Alors on a écouté, en dehors de la voix de Bertrand Blier, je le disais à l'instant, donc le back groove de Mick Jackson interprété par Miles Davis et ses complices. Auparavant, le deuxième mouvement Vivace du 16e Quatuor en fa majeur opus 135 de Ludwig van Beethoven interprété par le Quatuorvec. C'est pas des choses qu'on a souvent l'occasion d'écouter dans Cinéma Song, mais plus souvent disons sur France Musique. Auparavant encore, un extrait de la Traviata a dite alla Giovine, la Traviata de Verdi bien sûr, un extrait de la bande originale de Combien tu m'aimes, essentiellement composé d'airs d'opéra italien, dans une version donc avec le Bayerisches Staatsorchester dirigé par Carlos Kleiber et les voix de Ileana Kotrubas et Cheryl Mine, et auparavant encore un extrait du film de Bertrand Blier Notre Histoire avec les voix notamment d'Alain Delon, Gérard Darmon, Nathalie Baye bien sûr, et puis de manière sous-jacente la musique du compositeur roumain du XXe siècle Bohuslav Martinu, un tour d'horizon assez riche des goûts musicaux de Bertrand Blier et de ses films. Cette émission avait été préparée comme chaque semaine par Dorothée Goll. À la technique, il y avait Jean-Louis Deloncle. Cette émission était réalisée comme chaque semaine par le toujours vaillant Bruno Rioux-Maillard. La semaine prochaine, nous serons en compagnie d'un couple de cinéastes et musiciens, en l'occurrence le réalisateur Atom Egoyan et le compositeur Michael Dana. Ce compositeur oscarisé il n'y a pas si longtemps pour l'Odyssée de Pi, mais ce sera donc pour la semaine prochaine. Je vous laisse en compagnie d'Anne Montaron et de son Al Abrévé. Bonsoir.